Laudetur Jesus Christus.
Un prêtre arménien catholique et son père tués par les terroristes de Daesh dans le nord syrien hier. Les funérailles viennent d'avoir lieu. La situation des chrétiens d'Orient est bien souvent oubliée. C'est ce que déplore, nous l'entendrons, Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Regain de violence entre Gaza et Israël après l'assassinat ciblé d'un commandant du groupe Gazaoui djihad islamique cette nuit. Les roquettes sont tirées depuis le territoire palestinien pleuvent depuis ce matin sur le sud d'Israël. Xi Jinping sur les terres grecques, c'est le dernier jour de visite pour le président chinois. La Grèce est l'allié naturel de la Chine, a-t-il déclaré. L'ancien président bolivien fuit son pays, Evo Morales se dit menacé. Il rejoint le Mexique. La Bolivie est plongée dans une crise institutionnelle.
Le journal. Marine Henriot.
Bonjour à tous. En Syrie, les funérailles du prêtre Joseph Anna Ibrahim et de son père viennent d'avoir lieu en la cathédrale Saint-Joseph de Kamishli, la paroisse du prêtre défunt dans le nord syrien. Le prêtre arménien catholique a été assassiné hier. Il voyageait en voiture avec son père quand son véhicule a été pris pour cible par des hommes armés. Un double meurtre revendiqué à peine quelques heures après par l'organisation de l'État islamique. L'œuvre d'Orient, qui vient en aide aux chrétiens d'Orient, se dit indigné que la question des chrétiens en Mésopotamie syrienne soit systématiquement oubliée et escamotée. C'est ce que souligne Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre. Il réagit à cette triste nouvelle.
Nous avons appris avec horreur l'assassinat de ce prêtre arménien et de son père d'ailleurs, qui l'accompagnait dans sa voiture. Et ceci nous donne à penser que les chrétiens qui sont dans ce nord-est de la Syrie, c'est-à-dire en Mésopotamie syrienne, sont totalement oubliés. Nous souhaitons qu'ils puissent rester sur les terres qui sont les leurs, mais nous ne pouvons avoir ce souhait que si en même temps il y a un engagement de tous pour leur permettre de rester dans des conditions acceptables. Personne n'a vocation en soi au martyr. Les parents, par exemple, s'ils ne perçoivent pas qu'il y a une sécurité suffisante pour leur famille, auront tendance à quitter cette région. Parce que quand le défi qui nous est donné, c'est d'inspirer suffisamment de confiance aux populations pour leur donner à penser qu'elles ont en effet un véritable avenir chez elles. Nous le croyons, mais ça suppose que chacun se mobilise. Et à ce moment, je ne sens pas cette mobilisation.
Voilà Monseigneur Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Il était interrogé par Adélaïde Patrignani et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. On reste en Syrie où, selon le président turc, les États-Unis ne respectent pas leur engagement sur le retrait des forces kurdes. Un accord arraché au pied levé pour mettre fin à l'offensive des Turcs sur les Kurdes dans le nord syrien. Cet accord prévoyait le retrait des forces kurdes aidées par les Américains pour mettre en place une zone de sécurité de 32 km le long de la frontière turco-syrienne. Mais les Kurdes sont toujours présents dans la région, affirme ce matin Recep Tayyip Erdogan. C'est une nouvelle journée de mobilisation au Liban. Les banques et les écoles sont fermées. Des manifestants empêchent les fonctionnaires d'accéder à leur lieu de travail. Le premier ministre libanais Saad Hariri a démissionné le 29 octobre. Mais depuis, les tractations traînent pour la formation d'un nouveau gouvernement. À la une de l'actualité également, la tension en Israël et dans la bande de Gaza. Dans de nombreuses régions d'Israël, les écoles et les banques sont fermées. L'armée demande aux gens de ne pas sortir. Une escalade de tension après la mort d'un haut commandant du djihad islamique sous les raids d'Israël. On fait le point à Jérusalem avec Valérie Ferron.
Les funérailles de ce chef militaire du djihad islamique se sont déroulées à la mi-journée sur fond de raids israéliens dans la bande de Gaza qui ont fait au moins 3 morts et 18 blessés. Les écoles sont toutes fermées et les populations craignent le pire. Côté israélien, plus de 100 roquettes se sont abattues depuis l'aube sur les localités proches de la bande de Gaza, mais également dans la région de Tel Aviv où toutes les écoles, les banques et les principaux centres commerciaux restent fermés. L'état d'alerte est également maximum dans les localités du désert du Negev, ainsi classique à la frontière nord avec le Liban. Le gouvernement sortant israélien a adressé par ailleurs un message à l'Égypte pour l'assurer ne pas vouloir chercher l'escalade. Mais de son côté, le chef d'état-major vient de déclarer que l'armée se prépare à une offensive totale contre la bande de Gaza, si besoin. Du côté des factions palestiniennes, toutes celles présentes dans la bande de Gaza, y compris le parti présidentiel, le Fatah, ont affiché leur détermination à décider ensemble de la stratégie à suivre sur le plan militaire via leur commandement conjoint qui a assuré que toutes les opérations à venir se feraient avec l'implication de toutes les factions. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et réaction de l'Union européenne dans la matinée, elle appelle à une désescalade rapide entre Israël et Gaza. L'Union européenne dont Recep Tayyip Erdogan balaie les ultimatums du revers de la main. L'Europe veut mettre en place des sanctions contre la Turquie pour ses forages illégaux de gaz et de pétrole au large de Chypre. Mais ce matin, le président turc a été très clair, il poursuivra les forages. Il a également une nouvelle fois rappelé que la Turquie abritait 4 millions de réfugiés et qu'elle pourrait à son aise ouvrir ses portes vers l'Europe. Dernier jour de déplacement en Grèce pour le président chinois, Xi Jinping, qui lors de sa visite ce matin au musée de l'Acropole, a affiché son soutien à Athènes pour le retour des frises du Parthénon en Grèce. Les frises antiques sont actuellement au British Museum de Londres. La Grande-Bretagne a toujours refusé de rendre ses plaques sculptées à la Grèce. Alors une visite culturelle, mais également politique et économique. Les précisions à Athènes d'Alexia Kefalas.
Ce deuxième et dernier jour de la visite officielle du président chinois Xi Jinping à Athènes est placé comme hier sous haute surveillance. Depuis ce matin, la capitale grecque est quadrillée par des milliers de policiers, tireurs d'élite et hommes grenouilles. Après une visite du musée de l'Acropole, le président chinois rencontre actuellement le chef de l'opposition et ex-premier ministre Alexis Tsipras. Car il faut dire que c'est Tsipras qui a imposé un veto grec au Conseil des droits de l'homme de l'ONU contre une déclaration de l'Union européenne condamnant la violation des droits de l'homme. Et c'est Alexis Tsipras qui a aussi lancé la plupart des investissements chinois qui ont été signés hier par le gouvernement de droite. Ainsi, la première agence de Bank of China ouvrira ses portes dans quelques jours à Athènes, comme les bureaux de la Banque de développement chinoise, ainsi qu'une extension des énergies renouvelables et des télécommunications. Bref, une présence chinoise dans tous les secteurs qui s'élève déjà à plus de 7 milliards d'euros. Fer de lance de cette implantation, le port du Pirée, racheté intégralement en 2016 par le géant Costco, il prévoit un plan de rénovation d'un milliard d'euros avec centres commerciaux et complexes hôteliers. Ainsi, de gauche à droite, rares sont les voix des partis politiques qui critiquent cette présence chinoise comme s'il y avait une crainte de faire fuir les seuls investisseurs qui se sont intéressés au pays pendant la crise économique. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Tandis que la Guinée est agitée par des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, celui-ci a validé la date des élections législatives. Elles se tiendront le 16 février. Mais même avec l'approbation du président, il reste des doutes quant à la tenue du calendrier électoral. La Guinée qui souffre d'une agitation meurtrière, un collectif de l'opposition appelle à la mobilisation contre le président. Au moins 16 civils et un gendarme sont morts depuis le 14 octobre. La Bolivie sans chef d'État. L'ancien président Evo Morales a quitté son pays pour le Mexique où il a obtenu l'asile. Evo Morales qui se dit menacé en Bolivie. Il a donc quitté son pays cette nuit. Et Carlos Mesa, son opposant, a appelé à arrêter les attaques à l'encontre des membres du parti de l'ancien président. Et l'Organisation des États américains réclame, elle, une réunion du Parlement afin de préparer l'après Evo Morales. La correspondance régionale de Caroline Vic.
L'escalade de violence ne cesse pas en Bolivie avec des attaques, des intimidations et des menaces contre Evo Morales, sa famille et les membres de son gouvernement. Les domiciles du président démissionnaire et de sa sœur ont été saccagés et des menaces de mort ont été envoyées à des ministres de Morales et à leurs enfants. Dans un communiqué, l'Organisation des États d'Amérique n'a pas mentionné de coup d'État, mais une crise politique et institutionnelle. Elle a sollicité une réunion à l'Assemblée afin d'accepter la démission du président et de nommer de nouvelles autorités électorales pour organiser de nouvelles élections et de voter pour un mandataire de transition. Sur le continent, les réactions sont divisées. Les gouvernements de droite évitent de mentionner les forces militaires et pèsent leurs mots, certains parlant déjà de transition. En revanche, les politiciens de gauche au Mexique, en Argentine ou encore en Uruguay dénoncent clairement un coup d'État. Quant à Donald Trump, il a directement applaudi l'armée bolivienne. Evo Morales, lui qui s'était retranché dans sa ville natale, dans la région de Cochabamba, a finalement accepté hier l'asile politique du Mexique pour des raisons humanitaires et pour les risques qu'il encourt, déclarant que sa vie était menacée. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain retour de l'information en direct de Rome tout à l'heure à 18h. Et en attendant, rendez-vous sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite une très belle après-midi.